Depuis septembre, on étudie l'évangile de Marc. Et on a remarqué que cet évangile a une question centrale, qui est la suivante. Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Et aussi, au-delà, qu'est-ce que cela change dans notre vie ? Je voudrais vous proposer un résumé de là où nous en sommes. D'abord, dans l'introduction de son évangile, des versets 1 à 13 du premier chapitre, Marc nous donne des clés pour qu'on puisse comprendre justement qui est Jésus. Il nous donne trois témoignages au sujet de Jésus, si vous vous souvenez. Le témoignage de Marc, le témoignage de Jean-Baptiste et le témoignage de Dieu lui-même. Et à chaque fois, ce qu'on avait vu, c'était que le témoignage est le même dans les trois cas. Dans les trois cas, on apprend que Jésus est Dieu devenu homme et qu'il est venu comme Messie pour libérer son peuple. C'est ça qu'on apprend. Mais ce qui n'est pas encore très clair à ce moment-là, c'est de savoir de quoi il va libérer son peuple très exactement. On sait qu'il est le libérateur, mais le libérateur de quoi ? Et ça, ça devient très limpide dès que Jésus prend la parole. Première parole de Jésus dans l'évangile de Marc. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, dit Jésus. Là, les mots clés sont faciles à comprendre. Hein. Foi et repentance. Croire et changer de comportement. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut donc les deux, croire et se repentir, se détourner de ses fautes. Et on comprend donc que ce dont Jésus est venu nous libérer, c'est le mal. Le mal qu'il y a dans notre cœur à tous et ce mal qui nous empêche d'être en relation avec Dieu. Et pour montrer sa capacité à vaincre le mal, dès que Jésus est présent là, dans l'évangile de Marc, on le voit chasser des démons, guérir des gens qui sont possédés de démons. Il guérit des maladies aussi. Et donc on prend conscience que oui, Jésus, il a cette capacité à vaincre le mal. Et tout le monde est émerveillé, tout le monde est émerveillé au début. Mais il y a aussi une opposition qui grandit dans l'évangile. Et ce qu'on constate, c'est pour entrer dans ce royaume de Dieu, donc, croire en Jésus et changer de comportement. Et très vite, on se rend compte qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à croire en Jésus et d'autres qui ne sont pas prêts à changer de comportement. Et cette opposition, elle va atteindre des sommets avec le passage qu'on va lire. On va se rendre compte que ce sont ceux qui croient connaître Jésus le mieux qui, en fait, s'opposent le plus à lui, à savoir sa propre famille et les religieux qui, justement, attendaient sa venue dans le monde. Et donc, je vous invite à suivre la lecture de Marc, chapitre 3, les versets 20 à 35. On va voir cette opposition de la famille de Jésus et des religieux. « Jésus alla à la maison, et de nouveau, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet, « Il est devenu fou !» Les spécialistes de la loi, qui étaient venus de Jérusalem, disaient, « Il est sous l'emprise de Belzébul. C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. » Alors Jésus les appela et leur expliqua la situation au moyen de paraboles. Comment Satan peut-il chasser Satan ? Un pays déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se bat contre lui-même, si son royaume est divisé, il ne peut plus subsister, c'en est fini de lui. En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait « Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. » La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et, promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » On s'arrête ici pour la lecture dans la parole de Dieu. On constate donc dans le récit d'aujourd'hui que ce sont ceux qui devraient être les plus proches de Jésus qui s'opposent à lui. Donc à savoir sa propre famille et ceux qui attendaient sa venue, je me répète. Sa famille le prend pour un fou. Les chefs religieux, eux, l'accusent de faire des miracles par la force de Satan. Nous qui avons lu l'introduction de l'évangile de Marc, on sait que Jésus est Dieu devenu homme, et donc on n'est pas surpris par la puissance de Jésus, contrairement à sa propre famille ou aux chefs religieux. Et cette altercation avec la famille et avec les chefs religieux, elle nous permet d'en savoir justement un peu plus sur Jésus, par rapport aux deux questions suivantes. Eh bien, qui est la véritable famille de Jésus ? Réponse de Jésus, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on le sait depuis le début, ceux qui placent leur confiance en Jésus et qui se détournent de leurs fautes dans la repentance, eux font la volonté de Dieu et appartiennent donc à la famille de Dieu, de Jésus. Et deuxième question du jour, eh bien, qui est Jésus par rapport à Satan ? Et là, il nous faut nous replonger dans le texte. Parce que pour répondre à cette question, on est obligé de parler de Satan. Et là, on sent tout de suite que le terrain peut devenir glissant. J'ai fait un petit sondage à travers la Bible. Je vous livre un peu en vrac. Satan, Belzébul, le prince des démons, Bélial, le diable, le mauvais, le malin, l'ennemi, le prince de ce monde, le dragon, le serpent ancien, l'adversaire, l'accusateur, le tentateur, le diviseur. Et j'en ai sans doute oublié des noms pour désigner une seule et même personne. Et je vous la pose cette question. Est-ce qu'au 21e siècle, on peut encore croire à l'existence du diable ? Parce que même au sein du christianisme, eh bien, Satan est sujet à différentes interprétations. À un extrême, Satan n'existe pas. Et il n'est qu'une personnification du mal qu'il y a en nous, dans notre cœur. Et à l'autre extrême, le diable est mis à toutes les sauces. On a une crevaison sur la route en allant au culte, c'est le diable qui nous empêche d'aller louer le Seigneur. On a une altercation avec son voisin, c'est Satan qui s'est emparé de lui. Comment se situer par rapport à ces deux extrêmes ? Alors c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de Satan dans nos églises. Eh bien, on en a une occasion aujourd'hui et on va la saisir. Le diable existe-t-il ? Que nous dit la Bible ? Et s'il existe, comment est-ce qu'il agit ? Comment est-ce qu'il s'y prend ? Et s'il fait vraiment des choses contre nous, comment est-ce que Jésus l'a vaincu ? Tant de questions qui sont légitimes. Alors dans le récit qu'on a lu tout à l'heure, Jésus parle du diable, il parle de Satan, comme s'il existait vraiment. Et donc, on n'a pas d'autre choix. Pas d'autre choix que d'en déduire qu'il existe vraiment. Satan existe. Le diable n'est pas une image. Il n'est pas la projection ou la personnification du mal qu'il y a en nous. Il existe véritablement, c'est une personne. Il est décrit ailleurs comme un ange, c'est-à-dire un être spirituel qui n'a pas de corps, un ange qui se serait rebellé contre Dieu. Il est même le chef des rebelles, des anges rebelles à Dieu. Mais je dirais que c'est presque la seule chose qu'on sait. On ne doit pas aller plus loin. Le but du diable et des démons, c'est de détruire tout ce qu'il y a de bon, détourner les gens de Dieu. On va creuser un peu le texte d'aujourd'hui et on va le faire en trois points. Et à chaque point, on va voir comment Jésus interfère avec le diable et quelle est la réponse qu'il apporte au diable. Mais avant de rentrer dans les détails, je voudrais vous donner plusieurs exemples pour vous convaincre de l'importance de réfléchir au diable. Importance d'avoir les idées claires. Il y a 10 ans, il y a mon grand-père qui est mort. Il était souffrant à l'hôpital de Brive-la-Gaillarde. Il avait 94 ans. Et dans la dernière semaine de sa vie, il a développé un zona à la jambe. Et ça le faisait extrêmement souffrir. Et on n'arrivait pas à le soulager à l'hôpital. Et l'hôpital s'est tourné vers ma famille pour proposer la venue d'un coupeur de feu avec qui ils étaient en lien. Et donc, moi, je vous pose la question, est-ce qu'il faut accepter ce genre de pratique? Qu'est-ce que ça implique, ce genre de pratique? Comment ils s'y prennent, les coupeurs de feu? Visiblement, ils utilisent des gestes et des paroles rituelles qui seraient transmises par leurs propres ancêtres, selon leur dire. Est-ce qu'ils font appel à des puissances occultes en faisant ça? C'est la question qu'on a en droit de se poser. Vous voyez l'importance d'avoir les idées claires sur le diable et les démons. Autre exemple. Alors j'ai appris ça lors de la première fois que j'ai déjeuné avec vous, après un culte 3D. Il semblerait qu'à un réveillon du Nouvel An, ici, dans cette église, il y ait la chanson « La salsa du démon » qui se soit fait censurer. Première strophe. « Oui, je suis Belzébul. » Deuxième strophe. « Oui, c'est moi, Vampirella. » Et troisième strophe. « Oui, je suis la sorcière. » Alors c'est vrai que cette chanson, elle se veut rigolote. Mais est-ce qu'on peut s'amuser sur ces paroles? On a le droit de se poser la question. Est-ce qu'on pourrait les chanter, ces paroles? Je fume, je bois, j'ai tous les vices. Je vous déteste, je vous maudis. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson et danser dessus? Alors, quand j'étais petit, moi, avec ma sœur, on dansait comme des fous sur cette chanson, hein, pendant les réveillons du Nouvel An aussi. C'était pas dans une église. Mais je reconnais aujourd'hui que c'était rigoler d'un sujet qui ne devrait pas nous amuser. Dans mon ministère à Castres, 7 ans, j'ai eu une fois une demande particulière. Une dame un peu en marge de l'église qui entendait des voix dans sa maison. Et elle était convaincue que sa maison avait été le lieu de rites satanistes. Et elle était convaincue aussi qu'on lui envoyait des sorts pour qu'elle ne se sente pas bien dans sa maison. Et elle est venue avec cette demande. Elle voulait que j'exorcise sa maison. Je ne sais pas ce que vous pensez d'une telle demande. Et enfin, le dernier exemple pour vous encourager à la pertinence d'avoir les idées claires sur le diable, eh bien, il y a des choses qu'on aimerait tellement changer en chacun de nous. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a des choses en moi que j'aimerais vraiment, vraiment changer. Et est-ce que j'y arrive? Ben, pas toujours. Et la question qui se pose là, c'est comment gérer la tentation au quotidien? Et quand on ne résiste pas à la tentation, comment gérer ensuite la honte et la culpabilité? C'est une question pastorale qui revient souvent, c'est comment est-ce que Jésus peut encore me pardonner alors que je tombe et je retombe? Vous voyez donc l'importance de creuser ces aspects-là qui sont tous liés à Satan et à ce qu'il fait dans le monde, encore, à travers nous aussi. Avoir les idées claires sur Satan. La première idée claire que j'aimerais vous laisser, c'est celle-ci. C'est que le diable exerce une emprise sur les hommes. Le diable exerce véritablement une emprise sur les hommes. C'est le texte lui-même qui nous le dit. Hein. Vous l'avez sans doute constaté, le Nouveau Testament, il parle souvent de démons qui exercent une influence forte sur les gens. Et Jésus, il chasse grand nombre de démons, il libère les hommes et les femmes en pratiquant ce que l'on appelle des exorcismes. Et aujourd'hui, on ne parle pas autant de démons. Et dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas autant de démons non plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Jésus? Il y a certains théologiens qui avancent cette idée-là, que le diable et les démons se seraient déchaînés dans l'histoire de l'humanité quand Jésus est arrivé sur Terre. Ils se sont déchaînés parce qu'ils sentaient que Jésus pouvait les détruire et lutter contre eux. Et donc, ils se sont défendus autant qu'ils le pouvaient. C'est ça qui expliquerait, c'est une des possibilités en tout cas, que les démons se soient tant déchaînés du temps de Jésus et qu'on les voit peut-être un peu moins ou différemment aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'exorcisme est considéré comme une pratique occulte, mais elle est souvent médiatisée à travers les films d'horreur comme L'Exorciste ou J'en passe. Mais en tout cas, on n'en entend pas autant parler qu'on peut le lire dans les évangiles. Je dirais aussi qu'il faut être prudent avant de dire que quelqu'un est sous l'influence d'un démon. Il ne faut pas voir le mal partout. La psychiatrie, aujourd'hui, elle explique un certain nombre de comportements par des maladies neurologiques. Par exemple, aujourd'hui, on parle de schizophrénie, de paranoïa, de bipolarité, de dédoublement de personnalité, et on sait que ce sont des maladies neurologiques et non pas des emprises de démons. Ces maladies-là, elles se soignent par un traitement médicamenteux qui dure souvent toute la vie, mais elles se soignent. En revanche, comment expliquer des périodes très sombres de notre histoire? Comment expliquer le nazisme? Comment expliquer le stalinisme? Comment expliquer les massacres au Rwanda? Comment expliquer la torture? Eh bien ça, ce sont des exemples qui devraient nous interpeller. Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir là l'influence directe du diable qui fait ressortir en l'homme ce qu'il y a de pire? En tout cas, ce que l'on constate dans l'expérience biblique, c'est que les démons investissent toujours des personnes. Nous ne voyons jamais Jésus exorciser un objet. Jésus exorcise toujours des personnes. Alors, cela dit, c'est vrai qu'il y a certains objets dont la finalité est de servir à des rites occultes, les gris-gris, les amulettes, et on pourrait très bien trouver pertinent de les détruire, ces objets-là. Mais de là à dire, par exemple, qu'une maison doit être exorcisée, je dirais qu'il y a un pas à ne pas franchir. Et on pourrait très bien conclure que les démons exploitent souvent la crédulité des personnes. En tout cas, ce sont les personnes qui sont la cible des démons et pas les choses. Et par rapport à cette emprise que le diable peut avoir sur les personnes, eh bien, quelle est la victoire que Jésus a remportée? Eh bien, Jésus, il a désarmé le diable. Jésus a prouvé qu'il était le plus fort par rapport au diable. Il a guéri de nombreux démoniaques. Dans le texte de ce matin, on a lu un truc impressionnant. Parole de Jésus. Personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est comme ça que se présente Jésus. Jésus, il est l'homme fort qui peut ligoter cet autre homme fort qu'est Satan, le diable. Jésus est plus fort que le diable. Il le ligote et il pénètre dans sa maison et il s'empare des biens dont Satan s'était déjà emparé. Jésus, plus fort que le diable. Et nous, chrétiens, est-ce que le diable peut nous posséder? Eh bien, c'est vrai que même si certains de nos comportements peuvent être influencés par le diable, je dirais qu'il ne peut pas nous posséder totalement. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes le temple de l'Esprit-Saint. Il y a déjà quelqu'un d'autre en nous qui est plus puissant que le diable et qui ne peut pas être délogé. Dieu a déjà pris la place et Dieu ne peut pas être bougé de là. Mais attention, parce que si le diable ne peut pas nous posséder complètement, il peut tout de même nous faire du mal et il peut nous entraîner dans le péché. Et l'apôtre Pierre, qui l'a très, très, très bien décrit, il a dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, comme un lion rugissant, et il cherche quelqu'un à dévorer. » Voilà pour ce premier aspect, ce premier point pour avoir les idées claires sur le diable, à savoir qu'il exerce une influence sur les personnes. Et que Jésus vainc le diable. Il est plus puissant que lui. On va se pencher maintenant sur comment le diable s'y prend pour nous faire du mal. Eh bien, la méthode du diable, elle est simple. Elle passe par la tentation. Le diable nous tente. Il nous séduit. Et quand il nous séduit, il nous présente une vision déformée de la réalité. Il nous ment. Un exemple biblique. La première loi de Dieu. La première loi de Dieu, on la trouve dans Genèse 2, versets 16-17. C'est Dieu qui donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger des fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf d'un. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et là, on se rend compte, dans l'intervention du diable, on comprend comment il nous tente, nous séduit en déformant la réalité. Écoutez comment, ce qu'il a dit le diable aux premiers humains. Il leur a dit « Est-ce vrai que Dieu vous a dit « Vous ne devez manger aucun fruit du jardin » ?» Vous voyez le mensonge qu'il y a dans la phrase de Satan ? Satan a mis l'accent sur l'interdiction. Il a généralisé l'interdiction à tous les fruits du jardin, alors qu'en fait, il n'y en a qu'un seul qui est interdit. Le diable a présenté la règle comme une monstrueuse privation, comme si Dieu ne voulait pas notre bien, alors que c'est faux. Le diable, il fausse la réalité, il la déforme pour nous tenter. Je voudrais vous donner deux exemples pour vous montrer comment le diable s'y prend pour déformer la réalité et nous tenter. Le premier exemple, il est lié à la sexualité. Ça ne va pas être une grande surprise pour vous, mais aujourd'hui, il y a un mouvement fort qui pousse dans le sens de s'essayer sexuellement avant le mariage. Si vous connaissez le chanteur Florent Pagny, il l'a même chanté, il y a une chanson qui dit « Si tu veux m'essayer, sans vraiment t'engager, sans risque ou sans contrat. » Là est un des mensonges du diable. Mensonge du diable qui nous fait croire que la réussite d'un couple passe par la sexualité et par l'essai de la sexualité avant le mariage. D'expérience, pourtant, eh bien, dans la sexualité, il y a des hauts et des bas. On peut très bien s'entendre au début et moins bien après. Les débuts peuvent être difficiles et devenir meilleurs ensuite. On constate donc la tromperie du diable qui remet en question la bonté de Dieu. Parce qu'effectivement, Dieu est bon. Dieu est bon lorsqu'il nous encourage à rester purs pour notre mariage. Il nous promet une sexualité épanouie qui se déroulera dans un cadre sécurisant grâce à l'engagement pris le jour du mariage. Alors, ça ne garantit pas tout, mais... En tout cas, mensonge du diable. Votre mariage ne sera pas meilleur si vous vous essayez avant. Le deuxième exemple dont je voudrais vous parler pour vous montrer comment le diable déforme la réalité pour nous tenter, je voudrais vous parler du mouvement des Gilets jaunes. Alors c'est un peu glissant là aussi, j'espère que je ne vais pas dire des énormités. Il me semble qu'il y a dans ce mouvement-là des revendications très légitimes. On a entendu parler de la revendication de la justice sociale, celle de l'équité fiscale, le fait qu'on devrait pouvoir travailler et vivre décemment avec le fruit de son travail, la constatation aussi que les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Revendication légitime. Mais je me suis demandé, en fait, en écoutant les uns et les autres, s'il n'y avait pas quelque chose de plus profond. Plus profond dans ce mouvement, et tellement profond que ça nous ramène au cœur de tout être humain, et donc que ça nous concerne tous. Je me demande si ce n'est pas la question du pouvoir d'achat qui a été un révélateur. On en entend tellement un peu parler comme en fond de tâche, cette question du pouvoir d'achat. Et en fait, on ne peut pas supporter l'idée que notre pouvoir d'achat puisse baisser. Et je me demande derrière si ce n'est pas la question du « toujours plus » qui est posée ici. Et je crois discerner dans cette question l'un des mensonges du diable. Mensonge du diable qui veut nous faire croire que l'argent, la réussite sociale ou le pouvoir d'achat feront notre bonheur, au final. Alors, je ne suis pas en train de faire de la politique, là. Je ne suis pas en train de dire que les revendications des Gilets jaunes ne sont pas légitimes. Et je sais qu'il y a des chrétiens évangéliques qui vont dans ces manifestations, qui le font de façon pacifique. J'ai lu les témoignages de certains sur Internet. Ce que je dis, c'est que ce qui se passe en ce moment nous pousse immanquablement vers cette question. Qu'est-ce que j'attends de la vie ? Qu'est-ce que je veux, en fait, au plus profond de moi-même ? Est-ce que je suis juste un animal dont le but unique serait de consommer, et de consommer toujours plus ? L'une de mes paroissiennes les plus pauvres que j'ai connues, à Castres, elle avait l'un des écrans plats les plus grands de toute l'église. Pourquoi ? Parce que sa télé était symboliquement hyper importante. Sans cette preuve extérieure de richesse, elle se sentait comme exclue. Elle se sentait au banc de la société. Et là, il me semble que c'est le poids du regard des autres qui influence ici, dans ce comportement. Mais notre identité, elle n'est pas à chercher ou à trouver dans le regard des autres. Notre identité, elle est en Christ. Christ qui a donné sa vie pour nous. On est pardonné de nos fautes, on est en paix avec Dieu, notre Père. On n'a pas besoin d'une télé plus grande pour exister. On n'a pas besoin d'une voiture plus puissante pour être quelqu'un. On est déjà quelqu'un aux yeux de Dieu. Cette course à la croissance, de toute façon, elle finira par nous tuer, dans le pire des cas. Dans l'immédiat, elle ne nous rend pas heureux parce qu'on en veut toujours plus. En tant qu'Église, il me semble qu'on a là un devoir de témoignage de sobriété de vie. Les gilets jaunes sont dans la rue parce qu'ils sont en manque d'espoir, mais l'espoir ne peut pas venir de notre gouvernement ni de notre président. L'espoir, comme l'a si bien rappelé Laurence tout à l'heure, il vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous apprend à non pas accumuler les biens, mais qui nous encourage plutôt à soigner nos liens fraternels. Voyez en tout cas comment le diable nous séduit en nous présentant une vision déformée de la réalité, en nous faisant croire des choses et nous influence dans notre vie. Et ensuite, la balle est dans notre camp. Lorsqu'on succombe à la tentation, il y a la force de l'habitude qui est là, et on replonge encore et encore dans le péché, dans un esclavage. Le diable nous tient en esclavage. Comment est-ce que Jésus a vaincu le diable tentateur ? C'est très simple. Durant toute sa vie, Jésus a résisté aux tentations du diable. Et il a réussi. Il a tenu bon. Il n'a jamais succombé. Et il ne faut pas croire que ça a été facile pour lui de résister aux tentations. Il les a vécues en tant qu'homme, comme nous. Après son baptême, il a passé 40 jours dans le désert où il a été tenté par le diable. Il a été ensuite tenté pendant tout son ministère, jusqu'au dernier jour, où quelques heures avant sa mort, il priait dans le jardin de Gethsémané que sa mort puisse lui être évitée. Tentation jusqu'au dernier moment pour Jésus. Il est un exemple pour nous. La résistance au mal est possible. Mais comment ? Comment résister à la tentation ? Comme Jésus, non pas en comptant sur nos propres forces, mais sur les forces que Dieu nous donne. Alors c'est peut-être facile à dire, beaucoup moins facile à vivre. Ces forces que Dieu nous donne, il nous les communique par son esprit. Il nous renouvelle intérieurement par la prière. Il nous renouvelle intérieurement par la méditation de sa parole. Il nous renouvelle aussi intérieurement par la fréquentation de frères et sœurs en Christ qui peuvent nous aider à tenir le coup. N'oublions pas que à chaque fois que Jésus a été tenté, il y a répondu dans le désert par une parole même des Écritures. Et là, je voulais vous encourager avec cela. À chaque tentation qui est la nôtre, sachez qu'il y a quelque part dans les Écritures une réponse, une parole pour nous encourager à tenir le coup. Il y a dans les Écritures une parole qui détruit la tentation que le diable met devant nous. Voilà pour Jésus, vainqueur des tentations, plus fort que la tentation. Et la troisième chose que le diable fait, c'est qu'il nous accuse. C'est même l'un de ses noms, comme le tentateur est un de ses noms, l'accusateur en est un autre. Il faut bien comprendre comment le diable s'y prend. Une fois qu'il nous a tentés et qu'on a succombé, que fait-il ? Il va auprès de Dieu et il nous accuse. C'est son rôle principal. Satan est appelé dans le livre de l'Apocalypse l'accusateur de nos frères. Et dans le livre de Job, on le voit s'approcher de Dieu pour essayer d'accuser Job devant Dieu. Satan nous accuse. Satan se présente devant Dieu et comment s'y prend-il pour nous accuser ? C'est très simple, il utilise la loi de Dieu, il utilise la justice de Dieu comme une arme contre nous. Son arme pour nous accuser, la justice de Dieu. À chaque fois que nous péchons, que nous commettons quelque chose de mal aux yeux de Dieu, le diable s'approche de Dieu. Il nous accuse, par exemple, « Dieu, regarde cet homme là-bas, sur terre, à Pau, un certain Alexis Lamotte. Regarde comment son cœur est mauvais. Vois comment il fait des choses que ta loi et ta justice condamnent. Il mérite ton jugement. Il mérite ta condamnation. C'est ça qu'il fait, Satan, à chaque fois que nous péchons. Il va auprès de Dieu pour nous accuser. Et il se sert de la loi de Dieu pour le faire. Et c'est vrai, on est pécheurs. La liste de nos fautes est grande devant Dieu. On se rebelle souvent contre son autorité et on mérite sa colère, son jugement, sa condamnation. Comment est-ce que Jésus a vaincu tout ça? Comment est-ce qu'on s'en sort quand le diable vient nous accuser auprès de Dieu? Bien, on a des réponses dans les Écritures. La plus belle réponse est ici, Colossiens 2, verset 14. Jésus a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il l'a fait disparaître. Il l'a cloué à la croix. Comment est-ce que Jésus a vaincu Satan l'accusateur? Eh bien, Jésus l'a vaincu en prenant sur lui toutes nos fautes et en payant le prix de notre condamnation. Nos fautes ont déjà été, ben vous le voyez, annulées. Quelqu'un a payé pour. Satan, il ne peut plus nous accuser. Jésus a payé le prix de notre condamnation. Il s'est substitué à nous dans la condamnation. Et on comprend donc que, grâce à la mort de Jésus, eh bien, la justice de Dieu est satisfaite. L'accusateur est réduit au silence. Jésus devient notre avocat. Il plaide pour nous quand Satan nous accuse. Si nous croyons au sacrifice que Jésus a accompli, eh bien, Jésus démolit l'accusation du diable. Notre dette est déjà réglée. Le jour de l'ascension, 40 jours après Pâques, 40 jours après la résurrection de Jésus, eh bien, Jésus est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. C'est quoi la portée de ce fait historique? Eh bien, la portée de ce fait historique, c'est qu'aujourd'hui, sur le trône de Dieu, il y a un homme, Jésus-Christ. Et il intercède auprès de Dieu. Il est notre avocat auprès du Père. Et donc, quand le diable se pointe pour m'accuser, moi, Jésus, il fait peut-être une réponse de ce style-là, mais Père, c'est vrai, Alexis Lamotte fait parfois de mauvaises choses, mais j'ai donné ma vie pour lui sur la croix, il y a 2000 ans. J'ai payé pour lui. Il n'y a plus rien pour l'accuser parce que ses fautes, je les ai déjà payées. En Jésus, on a le pardon de nos fautes. Plus d'accusations possibles. Dans le dialogue qu'il a avec les chefs religieux, Jésus semble dire pourtant qu'il y a un péché impardonnable. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il appelle ça le blasphème contre le Saint-Esprit. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce qu'on l'a commis, ce blasphème contre le Saint-Esprit? Je vais vous relire le passage. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait « Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais ». Ce blasphème contre le Saint-Esprit, c'est l'endurcissement délibéré d'un cœur humain qui a pourtant toutes les indications pour comprendre qui est Jésus et ce qu'il fait. Voyez la mauvaise foi des religieux. Les religieux, ils attribuent à Satan l'œuvre du Saint-Esprit à travers Jésus, à travers les miracles de Jésus. Ils refusent de se laisser persuader par l'Esprit. L'Esprit qui est à l'œuvre dans les miracles de Jésus. Le pardon, c'est justement quand le pécheur cède, quand le pécheur se repent. Mais il n'y a pas de salut pour celui qui ne se repent pas. Pour celui qui ne se tourne pas vers Jésus, il n'y a pas de salut. Et c'est ça le blasphème du Saint-Esprit. Savoir qui est Jésus et se fermer à lui. C'est ça. Savoir qui est Jésus et se fermer à lui. Est-ce que vous pensez avoir un jour blasphémé contre le Saint-Esprit? Mais je vous dis, si vous repentez et que vous placez votre confiance en Jésus-Christ, c'est la preuve même que vous n'avez pas commis le blasphème contre le Saint-Esprit, parce que votre cœur ne s'est pas endurci contre le Saint-Esprit. Donc, celui qui croit et qui se repent de ses fautes n'a pas commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Quelques mots de conclusion. Jésus, on a observé, il a gagné une triple victoire sur le diable. Il a montré sa supériorité en chassant les démons. Il a toujours résisté aux tentations du diable. Et il a annulé l'accusation que le diable portait contre nous. En mourant à notre place, Jésus, il a remporté une victoire qui est décisive sur le diable. Et on peut dire que notre sort est déjà scellé. Le diable ne peut plus nous accuser, le diable ne peut plus nous arracher à Dieu. En revanche, c'est vrai que le diable, il continue à nous tenter, il continue à nous faire chuter. On peut dire que si la victoire décisive a été remportée par Christ, il nous reste encore des batailles à mener. Prenons garde à ne pas donner au diable plus d'importance qu'il n'en a. C'est vrai que le diable est d'une façon ou d'une autre derrière tout le mal qui se fait sur terre. Mais nous sommes avant tout responsables de nos propres mauvaises actions. Ça serait bien trop simple que de nous cacher derrière le diable à chaque fois que nous faisons quelque chose de mal. Il y a un seul mot d'ordre, c'est résistance. Résistance. Et si nous chutons, eh bien, tournons-nous humblement vers Dieu pour lui demander pardon. Notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable sur la croix. Nous ne pouvons plus être accusés devant Dieu. L'histoire de l'humanité, elle est souvent comparée à la Deuxième Guerre mondiale. La victoire décisive, elle a été acquise lors du débarquement, le 6 juin 1944. À partir du moment où les Alliés ont pu mettre un pied sur le sol français, c'en était fini pour les ennemis de la France. Mais la victoire totale, la fin de la guerre, elle n'a été signée qu'un an plus tard, le 8 mai 1945. Pendant un an encore, même si la victoire décisive avait été acquise, il a fallu résister, résister jusqu'au jour de la libération totale. Eh bien, c'est pareil pour nous à grande échelle. La victoire décisive sur le diable, elle a été acquise sur la croix par Jésus. La liste de nos péchés a été clouée avec Jésus il y a 2000 ans. Nous ne pouvons plus être condamnés. Le diable ne peut plus nous accuser. En revanche, eh bien, il continue à nous tenter et il prend plaisir à nous voir chuter. Mais un jour, quand Jésus reviendra, la victoire totale sera là. Le diable ne pourra plus rien faire, il sera jugé et condamné. Et nous prendrons part à cette libération totale. Alors en attendant que Jésus ne revienne, je n'ai qu'un seul mot, chers frères et sœurs. Ben, résistons. Résistons. Laissons-nous renouveler intérieurement par la parole de Dieu. Demandons-lui des forces dans la prière. Et en tant que frères et sœurs, luttons ensemble pour honorer Dieu dans nos vies. Amen.